Et je vous invite à ouvrir la parole dans la première épître de Jean, au chapitre 2, des versets 18 à 28. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous, vous avez la connaissance. Je vous ai écrit, non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Ensuite, une deuxième lecture, toujours dans la première épître de Jean, mais au chapitre 4, les versets 2 et 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Ensuite, une troisième lecture dans la deuxième épître de Jean, au premier chapitre et au verset 7. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'Antichrist. Et une dernière lecture dans l'Ancien Testament, au chapitre 31 de Jérémie, versets 31 et 34. Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jusqu'ici la parole de l'Éternel.
Des habits magnifiques, somptueux, raffinés et tellement confortables, des habits, hein, sont totalement inutiles si personne ne les habite. Inutiles, sont dans l'armoire. De même, nous pouvons avoir des pensées magnifiques, un cœur rempli de réflexions raffinées, mais si le Saint-Esprit ne les habite pas, tout cela est dans l'armoire, inutile, comme des habits inhabités. Eh bien, nous comptons sur l'œuvre du Saint-Esprit ce matin, une fois de plus, pour faire vivre cette parole en nous, que nous puissions la saisir, la comprendre et la vivre activement dans notre vie de tous les jours. Vendredi soir, nous avons eu ici une rencontre avec l'ACD, donc Au Commencement Dieu et le Gage, donc groupe ado jeunes, qui était ouverte à tous. Et nous avons parlé du sujet du nouvel âge, qui nous a permis de comprendre le contexte dans lequel nous vivons. plusieurs personnes ici dans cette église sont confrontées soit directement à ces pensées, ou du moins nous pourrions dire tout le monde y est confronté indirectement. Alors je vais vous résumer quelques éléments de ce que nous avons entendu vendredi soir. Donc quatre éléments clés que je vous donne ici. Premier élément, c'est que le but avoué ou non, mais présent partout dans le Nouvel Âge, est devenir Dieu, ou devenir comme Dieu, ou dit autrement, de diviniser l'homme. Le but, premier élément. Deuxième élément, la façon de vivre le Nouvel Âge, c'est en fait être maître de ma vie. Être maître de ma vie, hein, et chercher bien sûr le bien-être dans tous les domaines. But, la façon de vivre. Troisièmement, le cheminement dans le Nouvel Âge. Eh bien, en fait, tous les chemins mènent au Dieu du Nouvel Âge. Il suffit d'être éveillé ou illuminé ou ascensionné, particulièrement en quittant ce qui est ancien et en comprenant et saisissant ce qui est nouveau. On pourrait dire que pour le Nouvel Âge, Jésus est un être plus éveillé, un maître ascensionné. Et quatrième élément, c'est ce que j'appelle le renversement de relation. Une pensée que nous trouvons dans le Nouvel Âge qui dit ceci: Dieu a besoin de l'humain pour qu'il puisse se connaître. En fait, l'humain devient ainsi le révélateur, l'enseignant de Dieu, celui qui lui donne un sens à son existence. En fait, c'est la caractéristique de toutes les religions. Mais pas du tout du christianisme de la Bible. Révélation qui est la révélation, la Bible qui est la parole infaillible du seul vrai Dieu qui existe par lui-même et qui donne la vie. Eh bien, le Saint-Esprit, auteur de toute la Bible, conduit Jean, dans sa première épître, à répondre à tous ces éléments-là que nous avons vus vendredi. Alors, nous n'allons pas avoir ce matin le temps de nous occuper pour chaque détail, pour répondre à chaque élément, mais cette épître nous donne, et même cette partie que nous allons voir aujourd'hui, nous donne des réponses déjà à ces quatre éléments que je viens de vous présenter. Jean, dans son épître, commence, donc on revient au début de la lettre pour se rappeler de ce qu'on a déjà vu, il commence par démontrer que Jésus était une personne réelle. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché, vous vous souvenez, que son lien avec Dieu le Père était évident. Jésus est homme, si on peut le toucher, et il est fils de Dieu. Il a clairement proclamé par la suite qu'il n'y a aucune ténèbre en Dieu. Dieu est lumière, rien n'est caché, pas d'ésotérisme. On a vu ce terme vendredi, hein, qui, comme nous l'avons vu, signifie enseignement secret réservé à des initiés. Non, Dieu est lumière, il n'y a aucune ténèbre en lui. Le Saint-Esprit, par Jean, a rassuré les chrétiens qui se rendent compte qu'ils pêchent encore. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi je me rends compte, je pêche encore. Et il leur dit dans ce merveilleux verset du chapitre 2, le premier verset du chapitre 2, qui leur dit: mais nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et c'est lui qui est même la victime expiatoire pour payer pour nos péchés. C'est Jésus-Christ. Ensuite, Jean donne des moyens pour savoir si nous l'avons connu, si nous sommes de Dieu, si nous sommes de la lumière, si l'amour du Père est en nous. Et nous avons vu ensemble déjà trois tests que Jean donne ici dans son épître. Le premier test, c'était le test moral. Nous le trouvons dans 1 Jean 2. Vous pouvez prendre vos Bibles, hein, ouvertes dans 1 Jean toujours. Et là, au chapitre 2, nous avons vu les versets 3 et 4. C'est le test moral qui dit ceci: à ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'habite pas en lui. Donc, être chrétien, c'est garder les commandements de Dieu. Tout simplement. Être chrétien, c'est garder les commandements de Dieu. C'était le test moral. Un deuxième test que nous avions déjà vu aussi, que l'on peut appeler le test social, que l'on trouve au verset 9 et 10 du chapitre 2, qui dit ceci: « Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Le terme frère fait donc référence à tous les autres enfants de Dieu. Nous pouvons donc dire que être chrétien, c'est aimer les enfants de Dieu. Être chrétien, c'est aimer les enfants de Dieu. Et nous avons vu un troisième test qui se trouve au chapitre 2, toujours au verset 15 cette fois-ci. Verset 15, un verset très fort aussi, qui dit ceci. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Eh bien, ce troisième élément nous permet de dire que être chrétien, c'est aimer Dieu et non le monde. Être chrétien, c'est aimer Dieu et non le monde. Voilà, donc ça, c'est les trois éléments qu'on a déjà vus ensemble. Donc ce premier, être chrétien, c'est garder les commandements de Dieu. Être chrétien, c'est aimer les enfants de Dieu. Et être chrétien, c'est aimer Dieu et non le monde. Et nous allons voir aujourd'hui un autre test. C'est ce qu'on appelle le test doctrinal. C'est d'ailleurs le titre de cette prédication, le test doctrinal. La doctrine, c'est l'enseignement de la vérité proclamée. Et ici, c'est être au clair au sujet de l'identité de Jésus-Christ. Et celui qui passe le test doctrinal que nous voyons de ce texte, eh bien voici ce qu'il fait. Il fait trois choses. Il confesse que Jésus est le Christ. Il confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Et il confesse que Jésus est devenu homme. Hein? Celui qui passe le test doctrinal confesse que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est devenu homme. Et ce test permet déjà de répondre aux quatre éléments clés du nouvel âge que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais rapidement vous le démontrer. Premièrement, concernant le but, il n'est pas question de devenir Dieu soi-même, mais de reconnaître Jésus comme Dieu. Et nous allons chercher à imiter Jésus dans son humanité. Ça, c'était par rapport au but. Vous voyez, ça répond ce test très fort. Deuxièmement, concernant la façon de vivre, il n'est pas question que tous les chemins et d'éveil ou d'ascension personnelle par la nouveauté mènent à Dieu, non. C'est en fait reconnaître que Jésus est le maître. Attendez, là, je suis en train de me mêler les pinceaux. Laissez-moi juste regarder ce que j'ai écrit. Alors. Ah oui, j'étais trop loin. J'étais au troisième élément déjà. Vous l'avez déjà vu évidemment, mais je vais vous aider à le retrouver. Donc le premier élément c'était « je veux devenir Dieu hein, », ça on a compris. Maintenant ce n'est pas moi qui suis Dieu, je reconnais Jésus comme Dieu. Le deuxième élément c'était le fait d'être maître de ma vie. Voilà, c'était ça le deuxième élément. Concernant la façon de vivre, il n'est pas question d'être maître de sa vie, mais que Jésus soit le maître de ma vie. Vous voyez le changement? C'est Jésus qui est le maître de ma vie. C'est ce que veut dire demeurer en lui. C'est en fait le laisser régner en maître. Troisième élément, cette fois on y arrive par rapport à ce cheminement. Donc concernant ce cheminement, il n'est pas question que tous les chemins et l'éveil, l'ascension personnelle par la nouveauté mènent au Dieu, à Dieu. Mais c'est le Dieu du Nouvel Âge, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Non, il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Un seul, c'est Jésus-Christ, la vérité. Il est la vérité, il n'y a pas de mensonge en lui. Il est celui qui donne son onction, qui enseigne la vérité, qui était dès le commencement et qui restera toujours. Ça répond à tout ce qu'on a dit dans cette partie 3, au niveau du Nouvel Âge, qui dit ce qui est ancien, on laisse, c'est les anciennes énergies, mais on va dans ce qui est nouveau. Non, l'évangile était ancien, était bon, il est nouveau, il est bon, et il sera encore bon après. Quatrième élément, le renversement de relation, comme je vous avais dit, que cette pensée, Dieu a besoin de l'homme hein, pour qu'il puisse se connaître. Il n'est pas question de renverser l'ordre créateur-créature. La vérité vient de Dieu et ce n'est pas nous qui lui donnons un sens ou quelque compréhension de qui il est. En fait, c'est Jésus, le Fils, qui nous fait connaître le Père et c'est lui qui est devenu homme pour nous.
Quelque part nous qui devenons Dieu pour lui.
Et nous ne sommes pas hommes pour lui. Il est devenu homme pour nous.
En fait, toutes ces choses, c'est en lien avec ce test doctrinal que nous trouvons ici dans 1 Jean 2. C'est des choses qui reviendront maintenant dans ce qu'on va étudier ensemble.
Et nous allons nous laisser conduire par ce texte fiable de la parole de Dieu. J'aimerais aussi vous rappeler que Jean n'est pas en train de jouer au prof ici, qui fait un contrôle surprise pour piéger ses lecteurs. Je vais vous faire des tests pour vous piéger. Mais non ! Les tests qu'il donne, le test qu'on a vu, celui qui suit ses commandements, qui aime ses frères et sœurs, etc., ce sont des tests pour donner de l'assurance. Mais vous voyez, vous le faites, vous le vivez, vous êtes dans la foi. Ce sont des moyens pour s'assurer de l'œuvre de Dieu en nous et dans laquelle nous nous agirons après avec zèle, avec conviction. Pas pour voir si nous sommes meilleurs. Si vous utilisez ces tests qu'on a vus aussi tout à l'heure, test moral, test social, etc., pour dire voilà, moi je suis mieux que l'autre, eh bien ce n'est pas du tout le but de Jean. C'est simplement pour assurer ceux qui sont dans le Seigneur. De plus, le passage du jour commence, vous avez vu, au verset 18, il commence par « jeunes enfants ». Est-ce que tous ceux qui étaient dans l'église étaient jeunes, au niveau âge ? Ça m'étonnerait. Mais parfois, on dit ça par affection. En fait, Jean est plein d'affection pour ses lecteurs. Il les appelle « jeunes »,« mes petits », etc. Lui, il était âgé, sûrement, c'est vrai. Et puis, deuxièmement, il les appelle « enfants ». Enfants, ça veut dire qu'ils font partie d'une famille. Et cette famille, c'est la famille de Dieu. Donc Jean tel un père rempli d'affection par là ses auditeurs ici, en ayant le désir de les avertir, de les encourager et de les conduire dans l'assurance de leur salut. Il leur parle de ce qu'il constate. Il leur explique ce que cela veut dire. Et à plusieurs reprises, il dit « vous savez ». Il n'est pas en train de dire « vous savez rien, je vais vous expliquer ». Non, « vous savez ». Il ne cherche pas à amener quelque chose de nouveau. Il cherche à les faire retourner au commencement de la foi. Cet évangile n'a pas changé et ne changera pas. Si je dois le dire mille fois pour qu'on le comprenne, je le dirai mille fois. L'évangile n'a pas changé et ne changera jamais. Pourquoi ? Parce qu'il est parfait. Ce qui est parfait ne peut pas devenir plus parfait. Ce qui est parfait ne peut pas le devenir plus et ne va pas le devenir moins. Sinon, ce n'est pas parfait. L'évangile n'a pas changé, ne changera jamais. Et ce qui est parfait ne peut pas devenir plus et ne le deviendra pas moins. Alors, si quelqu'un vient vous dire que l'évangile n'est plus tout à fait comme avant, qu'il se trompe, qu'il faudrait quelque chose de plus, il se trompe. Car Dieu est inébranlable. Sa vérité ne change pas. Elle est justement la vérité. Mais des personnes ont été perturbées dans l'église à qui Jean écrit. Parce que des gens sont sortis de chez eux. Ils leur disaient que peut-être c'était meilleur, qu'ils ont trouvé quelque chose. Et Jean donne maintenant une explication pour ceux qui sont restés fidèles, afin qu'ils ne défaillent pas. Il leur parle de leur dernière. Il leur parle des antichrists. Ce sera notre premier point que j'intitule « L'esprit de ceux qui ne passent pas le test ». Et ensuite, de manière entremêlée dans le texte, il parle de la situation des fidèles de l'Église. Il leur parle de leur onction, de leur connaissance, de leur confession, de leur promesse. Et ce sera notre deuxième point que j'intitulerai « L'esprit » avec un « e » majuscule cette fois-ci, de ceux qui passent le test. Donc commençons donc par ce que j'en dis avec affection à ces jeunes enfants dans notre premier point, « L'esprit de ceux » qui ne passe pas le test. Je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons relire quelques versets. Nous ne lirons pas le passage dans son ensemble, je lirai par partie, puisque c'est entremêlé. Donc je vous dis chaque fois le verset où nous sommes, et simplement vous pouvez suivre. Donc commençons versets 18 et 19. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Verset 22. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Verset 26. Je vous écris au sujet de ceux qui vous séduisent. On a pris les éléments qui font partie de l'esprit de ceux qui ne passent pas le test. Premièrement, le Saint-Esprit par Jean nous dit qu'il est question ici d'une dernière heure. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, dans le Nouveau Testament, la question de la dernière heure, des derniers jours ou des derniers temps, eh bien, cela se réfère à une période qui a commencé avec la première venue de Jésus. Voilà. Donc, dès que Jésus est venu, on arrive en fait à la dernière heure, au dernier temps, ou au dernier jour, si vous voulez. Et donc, cette période se terminera avec son retour glorieux. Okay? Donc, lorsque dans le Nouveau Testament, il est question de la dernière heure, des derniers jours, des derniers temps, cela se réfère donc à une période commencée avec la première venue de Jésus et qui se termine avec son retour glorieux. Alors, je vais vous donner quelques textes bibliques qui nous permettent de le confirmer, évidemment. Donc, à la Pentecôte, par exemple, Pierre dit ceci dans Actes 2, les versets 16-17. « Mais ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Et Pierre dit, c'est maintenant, dans les derniers jours. Acte 2, 16-17. Pierre, en parlant de Jésus, dit ceci dans 1 Pierre 1:20. Il a été désigné d'avance, donc Jésus, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc la manifestation de Jésus qui est devenu en tant qu'homme, elle a été faite quand? À la fin des temps. Et au début de l'épître aux Hébreux, il est dit encore, bien que vous me croyez sûrement déjà, mais prenons encore un troisième témoin, Hébreux 11, 1. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. » Jean était dans cette période. Paul était dans cette période. Et nous sommes encore dans cette période. En fait, cette appellation d'heure dernière nous indique au moins trois choses que j'aimerais relever. La première, c'est qu'il y a urgence. C'est la dernière heure. Il n'y a pas encore des centaines d'heures. C'est la dernière heure. Tu ne sais pas à quel instant il revient. Et comme tu ne sais pas quand ta vie va s'arrêter. Peut-être dans quelques minutes. Il y a urgence. Deuxièmement, il faut être prêt. Tous les chrétiens, depuis Jean jusqu'à maintenant, ont toujours été appelés à être prêts à tout instant. Soyez prêts à le rencontrer. C'est la dernière heure. Et troisième élément, il ne s'agit pas d'un temps chronologique, c'est-à-dire une heure comme nous, on a une heure. Il s'agit d'un temps théologique. Voilà pourquoi cette dernière heure peut durer des siècles, tout en restant l'heure dernière. Le temps est relatif d'ailleurs. Une minute dans votre vie parfois peut sembler des siècles. Et parfois, c'est même pas une seconde. Hein. Et pour Dieu, vous connaissez ce texte dans Pierre où il dit qu'un jour c'est comme 1000 ans. Et s'il tarde avec sa venue et son jugement, c'est par patience pour que beaucoup arrivent à la repentance. Il y a donc urgence, il faut être prêt. Et il ne s'agit pas d'un temps chronologique, mais d'un temps théologique. J'en parle d'une caractéristique de cette dernière heure pour dire c'est là. Il dit, mais dans la dernière heure, il est dit, et c'est Jésus qui le dit dans Matthieu par exemple ou dans Marc, il y aura des gens qui se prendront pour moi, qui diront je suis le Christ. Il y a des antichrists. Un antichrist, des antichrists, ou même l'esprit de l'antichrist. Mais de quoi ou de qui parle-t-on? Eh bien, il parle de ceux qui ne passent pas le test doctrinal. Qui ne passent pas ce test qui dit que Jésus est le Messie promis, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est devenu homme. C'est d'ailleurs notre deuxième partie de ce premier point, hein, les antichrists ou l'antichrist. Dans toute la Bible, ce n'est que Jean qui utilise ce terme, antichrist. Vous trouverez dans aucun autre endroit dans la Bible ce mot. C'est Antichristos, si vous voulez en grec, que Jean utilise ici et dans 2 Jean, comme on l'a lu tout à l'heure. On a lu tous les textes qui utilisent ce mot, en fait, ce matin. Et anti veut dire contre ou à la place de. Ce sont donc des personnes contre Christ ou qui se mettent à la place de Christ. C'est vrai que dans certaines traductions, dans certains commentaires, il est parlé d'antéchrist. Vous avez peut-être déjà vu ça. Eh bien, mais ça n'a pas la même signification. Cela veut dire, en fait, avant Christ, anté, antédéluvien, enfin, c'est avant. Et l'antichrist n'est pas un précurseur de Christ, comme l'ont été les prophètes de l'Ancien Testament et dont Jean-Baptiste a été le dernier. C'est un imposteur. C'est pas un précurseur, c'est un imposteur. Il n'annonce pas la venue de Christ, il veut prendre sa place. Il veut écarter le roi des rois. C'est l'homme impie dont parle Paul, ce sont les bêtes dont il est question dans l'Apocalypse. C'est vrai qu'il y aura certainement un climax, un être humain qui s'imposera avant le retour de Christ, que lui-même détrônera. Est-ce que tout le monde le reconnaîtra, l'Antichrist? Je ne peux pas vous l'affirmer, parce que l'Antichrist n'est pas Dieu. Ce que je peux vous affirmer, c'est que tout le monde reconnaîtra quand Christ reviendra, et qu'il détrônera cet Antichrist. L'Antichrist est précédé de toute une série d'Antichrist qui ont la même pensée, qui ont l'esprit d'Antichrist. 1 Jean 4, 2 et 3, qu'on a lu tout à l'heure, que je vais relire, nous donne une première caractéristique de cet esprit. Il est dit dans 1 Jean 4, verset 2, « Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Et maintenant, verset 3, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. » D'ailleurs, dans 2 Jean 1, 17, donc peut-être une ou deux pages plus loin dans vos Bibles, le verset 7 nous dit « Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair, voici le séducteur, l'Antichrist. » C'est la même notion dans ces deux textes. Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas un homme, il est dans l'esprit de l'Antichrist. Il ne faut pas l'écouter. Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas un homme, il est dans l'esprit de l'Antichrist. Et il ne faut pas l'écouter. Jean donne des éléments clairs pour qu'on puisse aussi faire de l'ordre dans ce qu'on écoute ou pas. C'est la condamnation de toute pensée gnostique, en fait, qui indique que Jésus est divin, d'accord, mais il n'a jamais vraiment été un homme. Ou bien qu'il a emprunté un corps pendant un certain temps. Au baptême, il est venu dans le corps, puis juste avant la croix, il est ressorti du corps. Ou bien que c'était comme un fantôme. Les autres le voyaient, mais il n'avait pas vraiment la même nature que les autres. Non. Celui qui ne dit pas que Jésus est devenu un homme est dans l'esprit de l'Antichrist. Et tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu. Et dans notre texte de ce jour, nous trouvons encore d'autres caractéristiques de ces antichrists. Alors, revenez dans 1 Jean 2, verset 22. Là, on a deux caractéristiques dans le même verset. Où il est dit, qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Premier élément. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Deuxième élément. Alors pour bien saisir le premier élément, il faut se rappeler que Christ est le mot grec pour Messie. Messie, Christ, c'est le même mot en fait, simplement c'est dans deux langues différentes. Et en français d'ailleurs, si on le traduit en français, ça veut dire « oint », celui qui est oint. Christ, Messie, oint, c'est le même mot dans trois langues différentes en fait. Donc si quelqu'un dit que Jésus n'est pas le Messie promis dans l'Ancien Testament, s'il dit « non, Jésus, ce n'est pas le Messie promis dans l'Ancien Testament », il a l'esprit de l'Antichrist et il ne faut pas l'écouter. C'est très clair ici. Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas le Messie promis dans l'Ancien Testament, il a l'esprit de l'Antichrist. Il ne faut pas l'écouter. Et pour saisir le deuxième élément dans 1 Jean 2, 22, il faut se souvenir des paroles que Jésus a dit. Et les destinataires de cette lettre les connaissaient, ces paroles. Ils avaient déjà l'évangile de Jean. Ils connaissaient ces éléments. Et dans l'évangile de Jean, je prends un verset, on pourrait bien sûr développer plus, mais j'en prends un, comme ça, ça nous rappelle tout l'enseignement. Jésus a dit ceci, quelque chose de très fort, dans Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Je pensais te faire un grand commentaire ici pour le saisir. Moi et le Père, nous sommes un. Ce qui signifie que si quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu, le Fils, il est dans l'esprit de l'Antichrist. Et il ne faut pas l'écouter. Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu le Fils, il est dans l'esprit de l'Antichrist et il ne faut pas l'écouter. Eh bien, Jean, en donnant ses avertissements pour reconnaître les antichrists, permet au lecteur d'être apaisé face à ceux qui les avaient quittés et qui leur disaient avoir un évangile meilleur. Plusieurs personnes sont sorties de l'Église et ont tenté de séduire les chrétiens. Mais j'en donne des outils pour reconnaître ceux qui sont contre Christ. Et d'ailleurs, un critère suffit. Il en a donné trois. Mais un suffit. S'ils ne reconnaissent pas que Jésus est un homme, ça suffit déjà. S'ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie promis, ça suffit déjà. Ou s'ils ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu, ça suffit aussi. Et si des personnes qui croient à l'une de ces choses viennent dans une église fidèle à la doctrine de Dieu, ils ne peuvent qu'en sortir si l'église reste fidèle. Ils ne peuvent pas supporter la bonne doctrine. Et bien souvent d'ailleurs, ils la dénigrent. Si Jean a parlé de ceux qui ne passent pas le test doctrinal, ceux qui ont l'esprit de l'Antichrist, il parle aussi dans ce texte de ceux qui demeurent fidèles, de ceux qui sont restés. S'il a parlé de ceux qui sont sortis, il parle aussi de ceux qui sont restés. C'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. C'est très encourageant, réjouissant même. C'est pour ça que je me réjouis de voir ça avec vous maintenant, dans ce deuxième point qui s'intitule « L'esprit » avec un « E » majuscule de ceux qui passent le test. Alors, on va relire aussi ce texte avec... Relisez avec moi, et de nouveau, on reprend des versets donc, qui, cette fois-ci, vont dans cette direction-là. Verset 20, 1 Jean 2, 20. « Vous-même, » il parle aux fidèles de l'Église, hein, « vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous vous avez la connaissance. Je vous ai écrit, non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Verset 24. « Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. » Verset 27. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance jusqu'à l'avènement, et qu'à son avènement, pardon, nous n'ayons pas honte devant lui. Il est question d'une onction. Bon, Nouvel Âge cherche des illuminations, etc. Ici, il y a une onction. C'est plus puissant, hein, je le dis tout de suite déjà. Mais pour bien comprendre cette notion d'onction, il est important de saisir l'enseignement qui avait été donné dans l'Ancien Testament, la vérité qui n'a pas changé, qui avait été annoncée dans l'Ancien Testament. On a lu tout à l'heure le texte de Jérémie 31. Je vais le relire d'ailleurs, maintenant qu'on est vraiment dans ce contexte, pour qu'on puisse saisir. Il parle de cette onction-là. Jérémie 31, verset 1, 31, pardon. « Voici que les jours viennent, » on y est dans ces jours-là, si jamais, « oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, » maintenant il va parler de cette onction, « je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Si les gnostiques et les New Agers actuels cherchent une onction particulière, ce sera toujours un travestissement de ce qui a pu être annoncé ici, parce que cela ne vient pas de Dieu. Le croyant fidèle à qui Jean écrit ici a l'onction de Dieu. Et lorsqu'il est question d'onction dans le Nouveau Testament, cela fait référence au Saint-Esprit. Nous le voyons par exemple dans 2 Corinthiens 1, 21, 22. Hein, « Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. » Donc là, c'est d'où ça vient. Puis ensuite, ils disent ce que c'est, verset 22. « Il nous a marqué de son sceau. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Cette onction, c'est la présence du Saint-Esprit qui a d'ailleurs au moins 7 conséquences pour le croyant que nous trouvons dans ce texte ici qu'on étudie ce matin. 7 conséquences de cette onction qu'a le croyant. Premièrement, il a la connaissance. Il a la connaissance. Alors ça ne signifie pas qu'il connaît toute chose, qu'il devient omniscient. Non, l'homme ne devient pas Dieu, on l'a déjà vu. C'est de la gnose. Non, le croyant connaît le Fils qui révèle le Père. Comme annonçait le prophète Jérémie, il connaît l'Éternel. Il n'y a pas besoin qu'on le lui enseigne. Il le connaît. Il est d'ailleurs réconcilié avec lui. Il n'a pas besoin d'être enseigné. Cette connaissance, il l'a, le croyant. Deuxième conséquence, celui qui a l'onction sait la vérité. Il la sait au fond de lui. Elle est dans son cœur. Même si, par exemple, un témoin de Jéhovah, par ses paroles, veut mettre en doute sur la divinité de Jésus-Christ ou même sur la personnalité du Saint-Esprit, le croyant fidèle, en reprenant la parole, même s'il a été peut-être perturbé, ça arrive, hein, reprenant simplement la parole en revenant vers Dieu, sait la vérité. Il le sait. Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne, malgré tout ce que l'on peut dire. Cette vérité est dans mon cœur. Même si je ne peux ni forcément la comprendre totalement, ni même la défendre, elle est dans le cœur par l'action du Saint-Esprit. Il a cette vérité. Il sait la vérité. Troisième élément de conséquence de l'onction, il confesse le Fils et aussi le Père. Il confesse le Fils et a aussi le Père. Jésus avait dit que le Saint-Esprit rappellerait toutes choses et toutes les paroles que Jésus avait dites, que le Saint-Esprit le glorifierait. Ainsi, le croyant a du respect pour Jésus, Dieu le Fils. Et il confesse le Fils. Et en confessant le Fils, il a aussi le Père. Ils sont unis, trois en un, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est notre Dieu unique. Quatrième conséquence de cette onction, il a entendu dès le commencement. S'il n'avait pas entendu, il n'aurait pas pu être transformé, il n'aurait pas pu comprendre. Il l'a entendu. Il a entendu dès le commencement. La vérité que le croyant a entendue l'a conduit à son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et cette vérité n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Il n'a peut-être pas tout compris. Je vais peut-être dire pour moi, je n'ai pas tout compris au début. Peut-être même que j'ai compris de manière déséquilibrée bien des choses. Mais c'était quand même toujours cette vérité, et c'est toujours encore cette vérité maintenant. Il s'agit toujours de la même. Jésus, Dieu et homme, créateur et rédempteur, le salut ne se trouve en aucun autre que lui. Cinquième conséquence de cette onction, il demeure en Christ. Il demeure en Christ. Le croyant est poussé par le Saint-Esprit à vivre toujours plus comme Christ, homme. C'est-à-dire s'empêcher, à chercher à vivre dans cette sanctification. Celui qui est loin de l'Esprit ne peut pas pécher en toute impunité et quelque part ça ne lui fait rien du tout. Ce n'est pas possible. Il demeure en Christ. Et demeurer en lui, c'est pouvoir dire ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est pourquoi le croyant qui a l'onction dit ceci, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est ça demeurer en fait. Sixième conséquence de l'onction, elle est juste merveilleuse. Il a une promesse. Le croyant fidèle a une promesse. C'est le verset 25, apprenez-le par cœur, il n'est pas très loin à apprendre celui-là. Et vous avez une promesse, la vie éternelle. Le croyant a une promesse époustouflante. Il ne s'agit pas de devenir Dieu. Il ne s'agit pas d'un cycle de réincarnation à la recherche d'un karma meilleur. Il ne s'agit pas de se fondre dans un tout. Mais non. Verset 25 le dit clairement, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle, si vous deviez l'expliquer en une phrase, par exemple? Eh bien, un exemple, une signification que je vous propose, c'est que la vie éternelle, c'est une vie sans péché qui s'arrête jamais. Sympa, hein? Mais c'est ça la vie éternelle. Une vie sans péché qui ne s'arrête jamais. C'est cette vie éternelle-là que Dieu nous promet. Et celui qui promet cela, c'est le Christ, Dieu le Fils. Celui qui est capable, dans sa puissance et sa majesté, de devenir homme. Moi, je suis toujours fier quand je suis face à des personnes, particulièrement des musulmans, qui me disent « Dieu est puissant !» Je dis « Ok, amen !» Je dis « Mon Dieu, il est tellement puissant qu'il peut devenir un homme. » Waouh ! Il est capable de faire ça. Et il a fait ça pour que nous puissions être sauvés. Donc, s'il est capable, lui, de devenir un homme, de mourir, de ressusciter, des choses que je n'arrive pas à vous expliquer, eh bien, comment n'aurait-il pas la puissance de nous donner aussi ce qu'il nous promet ? J'arrive à la dernière conséquence de cette onction. C'est que l'onction demeure dans le fidèle. Elle demeure en lui. C'est la doctrine de la préservation ou de la persévérance des saints. Si vous voulez, hein. Le Saint-Esprit, une fois qu'il s'est établi, n'a pas un bail à loyer limité. Non. La transformation est effectuée pour la vie. Ou bien il n'y a pas eu de transformation du tout. À jouer à quelque chose. On peut jouer aux chrétiens. Ça ne peut pas marcher jusqu'à la fin. Non, l'onction que vous avez reçue de lui, regardez au verset 27, hein, demeure en vous. Demeure en vous. Voilà, donc cette conséquence, je vous l'ai redit rapidement, qu'on les ait aussi un petit peu en tête, parce que c'est juste merveilleux, c'est un encouragement que l'apôtre donne ici à chacun. La première, il a la connaissance, il sait la vérité, il confesse le Fils et aussi le Père. Il l'a entendu dès le commencement. Il demeure en Christ. Il a une promesse. Et l'onction demeure en lui. En conclusion, reprenons ce que Jean dit affectueusement à ses lecteurs au verset 28. Regardez avec moi. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte de lui. Ne cherchez pas ailleurs. N'allez pas vers tout ce qui prétend être un sauveur, un éveillé, un illuminé, une sagesse supérieure, une énergie jamais égalée. Ce sont des antichrists. Ce sont des imposteurs. Car ils apparaissent et disparaissent. Alors que Christ, lui, demeure éternellement. Imaginez, vous êtes sur un territoire où il n'y a qu'une seule source d'eau. C'est pas facile parce qu'ici on a beaucoup de sources en Suisse. Hein, mais... Il n'y a qu'une seule source d'eau. Cette source, elle est abondante. Elle est merveilleuse, elle est magnifique. Et est-ce qu'une fois que vous avez trouvé cette source, vous allez continuer à creuser pour ne trouver que des gouttes de votre propre sueur ou peut-être un peu des gouttes de la sueur de celui qui est à côté de vous? Est-ce que vous allez continuer à explorer pour chercher de l'eau? Mais non. Si vous avez trouvé cette source, vous allez vous y désaltérer. Vous allez même la partager. Est-ce que vous allez continuer à chercher de l'eau si vous connaissez cette source? Eh bien, c'est ce que font tous ceux qui ne veulent pas entendre parler de Christ, alors qu'il leur est présenté. Donc tout le monde ce matin, ça a été présenté. Et celui qui ne vient pas à Christ, qui ne veut pas aller à Christ, c'est exactement la même chose que celui qui connaît la source et qui continue à creuser pour ne boire peut-être que ces 2-3 gouttes de transpiration. Jésus-Christ est venu et l'histoire de notre humanité est marquée au fer rouge de sa venue. Il y a d'ailleurs un avant et un après Jésus-Christ. Il vient, c'est l'heure dernière, c'est... Il faut rester proche de Jésus, parce qu'en restant proche, c'est le verset 28 qu'on a lu, pardon, qui nous dit qu'on a l'assurance, une assurance en restant vers lui. Il vient, c'est l'heure, rester proche de Christ afin de ne pas avoir honte devant lui. Donc si quelqu'un se rend compte ce matin ici qu'il n'est pas en Christ, quelque part cette onction, ouais c'est joli, mais... Moi, je ne vis pas ça. Un texte qui est répété plusieurs fois dans la Bible, il dit « Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Demande pardon à Dieu, hein, de l'avoir résisté si longtemps. Saisis le pardon de Jésus-Christ, ton roi, qui pardonne et qui prend le contrôle pour notre bien. Parce que si tu n'entres pas dans ce cheminement de saisir Christ, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est la réalité que Dieu nous enseigne. Tu as l'esprit de l'Antichrist et tu ne passes pas le test. Mais pour ceux qui sont en Christ, verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Le croyant passe le test. Le Saint-Esprit habite en lui. Il le garde. Il le protège. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, c'est devant un texte solennel que nous nous trouvons ce matin. Nous sommes émerveillés de voir cet apôtre Jean, guidé par ton esprit, rempli d'affection pour ses lecteurs, leur parler, les avertir de choses qui sont mauvaises, qui sont difficiles. Leur parler de ceux qui te rejettent et dans un même temps les rassurer. Seigneur, nous avons besoin des deux. J'aimerais te prier de nous aider à comprendre les avertissements que tu nous donnes, à nous donner des outils aussi pour avoir du discernement dans tout ce que nous vivons. Et en même temps, j'aimerais te dire merci parce que lorsque tu fais cela, tu nous rassures aussi, tu nous encourages. Et bien que tous ceux ici qui sont en toi puissent être rassurés, encouragés, fortifiés. Et que ceux, Seigneur, qui ne sont pas encore touchés par ta grâce, puissent être terrifiés d'une terreur qui les conduise vers toi. Et qu'ils puissent en être délivrés. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.